voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Patrick Chauvel. Ce soir, à l'école de l'histoire.
Bonsoir Patrick Chauvel.
Bonsoir.
Vous nous recevez chez vous à Paris, dans votre bureau, qui ressemble un petit peu à un musée de vos guerres, avec partout des casques, des masques à gaz, des livres, des appareils photo en bon état, certains en beaucoup moins bon état, qui ont été visiblement la cible de ces guerres. On vous a souvent présenté comme le plus fou des photoreporters de guerre, mais aussi comme le plus expérimenté. Du Vietnam à la Syrie, en passant par le Liban, le Mozambique, la Somalie, l'Iran, l'Afghanistan ou le Salvador, vous avez couvert en plus de 50 ans de métier, une trentaine de guerres et de conflits armés dans le monde entier. 50 ans, trentaine de conflits, on va vite devoir sortir de cette logique comptable pour parler de vos expériences de terrain qui ont toutes le goût unique, tantôt amer, tantôt joyeux. Des rencontres de femmes et d'hommes qui croient en une cause au point de mourir pour la défendre, ou bien qui sont tout simplement perdus au milieu des horreurs de la guerre. Cette guerre est dans votre ADN, Patrick Chauvel, puisque vous êtes issu d'une famille qui l'a connue, qui l'a faite et qui l'a racontée. Raconter, témoigner, rapporter, ce sont les missions que vous vous êtes imposées, parfois au péril de votre vie. Vous vous êtes vu mourir à plusieurs reprises, vous avez été gravement blessé, vous avez coulé en mer avec les boat people d'Haïti. Vous vous êtes retrouvé face à un peloton d'exécution, et pourtant, comme un chat aux vies multiples ou comme un pirate inoxydable, vous êtes toujours là et toujours animé par une colère et une volonté de montrer, par vos images, l'histoire avec un grand H. Je parle de vos images parce que la photo est le moyen que vous avez choisi d'abord pour transmettre votre expérience de la guerre, puis il y a eu la vidéo, les livres et même la scène théâtrale. Aujourd'hui, et depuis peu, vos photos et vos films font partie d'un lieu de mémoire collective, le Mémorial de Caen, où sont rassemblées vos archives, 380 000 images et près de 1000 heures de vidéos. Pour autant, vous n'avez pas raccroché vos appareils photos ou votre caméra et vous pensez déjà au prochain voyage, à la prochaine aventure, qui vous permettront de dire aux gens qui vivent dans une paix sereine mais fragile, « Regardez, ça existe, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ». Avant de nous embarquer dans votre vie mouvementée, j'aimerais qu'on remonte à la source de toutes ces aventures, et évidemment à votre enfance. Alors j'aimerais savoir dans quel contexte vous êtes né en 1949, Patrick Chauvel.
J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là, mais on va dire que mon père voyageait beaucoup. Ma mère était occupée aussi, donc j'habitais chez mes grands-parents, qui était diplomate. Mon grand-père était ambassadeur de France. Et donc, il m'a embarqué aux États-Unis, puisqu'il était ambassadeur aux États-Unis. Ensuite, à Londres. Il a été ambassadeur à Londres pendant 10 ans, à peu près. Et il était le co-signataire des accords de Genève avec Madès. Enfin, il a participé aux accords de Genève. 1954. Et d'ailleurs, c'est ma première publication dans Match, puisque j'ai 4 ans. Je suis à la résidence à Versoix, la résidence de l'ambassade. Il y a Madès France sur le balcon, il y a mon grand-père et ma sœur et moi, on a 4 et 5 ans, on joue dans le parc, c'est une très belle villa qui a un parc sur le lac Léman. La presse est exclue des négociations évidemment. Il y a un grand portail, à l'intérieur il y a l'armée suisse qui protège et à l'extérieur il y a une centaine de journalistes qui essayent de choper quelque chose. Et à ma sœur et moi, curieux, qui tenons les grilles et on regarde la presse. Et en fait, c'est tout ce qu'ils avaient à se mettre sous la dent. Donc, ils ont fait une photo qui est sortie dans Match, où il y a marqué les accords de Genève, les petits-enfants de l'ambassadeur. Donc, pof, double dans Match, sans les mains, à 4 ans.
15 ans avant votre première double page dans Paris Match, on y reviendra. Vous êtes déjà...
Donc, ça faisait beaucoup rire, Schoendorfer. Il me disait, t'as déjà été dans Match et pour l'Indochine. Quand je suis parti à 18 ans au Vietnam, il m'a dit, voilà, t'as plus qu'à faire maintenant la double toi-même. Mmh. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que mon père, j'ai fini par le revoir.
Jean-François Chauvel, qui était grand reporter.
Pour alors qu'au début a été soldat dans la 2e DB, Spahi 2e DB.
Et qui a été, la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, et qui a été gravement blessé 2 fois. Mmh. Il a un trou dans l'oreille, on le voit là. Vous voyez, il a le joli visage, le doux visage. Il y a un trou dans l'oreille, c'est une balle qui a traversé. et il mettait sa cigarette dedans. Donc lui, il m'a raconté, il est devenu soldat à cause de l'histoire. Et ensuite, il est devenu journaliste. Et sur un reportage au Maroc, il rencontre Schindorfer, qui lui vient d'être libéré des camps de prisonniers de Dien Bien Phu, et qui est caméraman, qui était caméraman pour l'armée, et qui a fait les dernières images à Dien Bien Phu. Et il se rend compte, il y a une photo de leur rencontre, la première fois qu'ils se voient, qui est derrière l'avion, là-bas, sur le mur. Donc c'est, ils sont avec la Légion étrangère. Et après, ben, j'étais en pension, mais quand je dormais le week-end, enfin, quand j'avais la moyenne, c'est-à-dire presque jamais, je dormais chez Schindorfer. Et j'entendais ses histoires, et surtout ses amis. Donc il y avait mon père, il y avait Kessel, il y avait Schindorfer, il y avait Lartegui. Enfin, bon, tous ces gens racontaient des histoires fantastiques.
J'aimerais juste revenir à vos parents qui se sont eux-mêmes rencontrés pendant la guerre.
Oui.
Antonia Luciani était aussi, votre mère était aussi résistante.
Était dans la résistance, ouais. C'est son père, Séraphin Luciani, qui tenait un groupe de résistance SNCF, communiste, résistant, corse. Donc là, les Allemands avaient du souci. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui. Et donc, ils se sont rencontrés, évidemment. Donc, ça devait être assez romantique. Ils avaient entre 16 ans et 17 ans. Après, ils se sont perdus de vue. Mm-hmm. Elle pensait qu'il était mort, puisque il a été blessé. Et puis, il n'y avait pas de communication à ce moment-là. Entre mon père a été soigné en Angleterre. Et, donc, ils se sont revus à la fin de la guerre, en fait. Et là, ils ont fait des enfants. Voilà.
Votre grande sœur Marie-Christine.
J'avais un frère aussi plus vieux, mais qui est mort jeune, qui a dû naître en 46. Donc c'est juste après.
Ouais.
Ensuite ma sœur, qui a 11 mois de plus que moi, Marie-Christine Chauvel. Et ensuite moi. Voilà. Donc voilà. Mais sauf que voilà, ce sont des amours de guerre, des amours romantiques. La vie quotidienne est très dure sur ce genre d'aventure. Ouais. Mon père partait, il est parti au Népal. Il a disparu pendant 6 mois, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc ma mère a dû se lasser d'attendre. Et donc mes grands-parents ont récupéré les deux enfants. Et voilà, du coup je me suis retrouvé à vivre avec des gens qui ont vécu l'histoire en fait. Il y en a un qui l'a fabriqué un peu, c'est-à-dire le grand-père diplomate qui participe aux accords de Genève avec Madès. Mon père qui a été combattant et ensuite journaliste. Arrive là-dessus Schindorfer, qui tombe amoureux de la meilleure, de la sœur de son meilleur ami, ma tante, voilà, Patricia Chauvel, qui est elle journaliste à France Soir. Mm-hmm. Et Pierre ne savait pas à ce moment-là qu'en fait, en rencontrant Jean-François Chauvel, il allait tomber nez à nez avec un officier qu'il avait connu à Dien Bien Phu, qui est le cousin de ma mère, Jean Luciani, capitaine de Légion, qui commandait Béatrice.
Donc là, vous êtes vraiment baigné dans cette ambiance-là.
Tout le monde est dedans.
Un petit peu la jeunesse de votre passion pour l'histoire.
C'est-à-dire
que
c'est des gens qui racontaient bien les histoires, qui écrivaient, Kessel écrivait bien. Il me filait des bouquins. Enfin, et puis, on allait au cabaret à Novi où il finissait complètement allongé par terre.
Kessel,
quoi. Voilà. Et je sais qu'une fois, le maître d'hôtel avait fait une erreur. Il avait dit, les gens à la table à côté trouvent que vous parlez un peu trop fort. C'est mon père, Schindorfer, Patricia, Kessel sont mis debout sur les tables et ont lancé les assiettes. Et en disant, écoutez plutôt. Ouais. Et voilà, donc c'était joyeux, turbulent. Mm-hmm. Et puis ça me faisait rêver, bien sûr. C'était les grands personnages qui a le souffle de l'histoire. J'avais un prof qui était sympa, hein, qui me racontait la bataille d'Azincourt, mais avec le rythme d'un robinet d'eau tienne, quoi. Ça marchait pas, quoi.
Ouais.
Il l'avait pas vécu. Ce qui est important, c'est d'incarner les choses. C'est un peu ce que m'a demandé, ce que me demandent les gens à Bayeux ou à Caen, par exemple au mémorial de Caen. La suite logique de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre froide, et ensuite la fin des guerres coloniales aussi, puis les guerres d'aujourd'hui. Donc, je fais partie de la suite de l'histoire, mais c'est d'incarner. Quand on va discuter, faire des conférences avec les lycéens, avec les étudiants, évidemment avec un historien à côté de moi et des gens comme ça, mais la partie incarnée fait que les jeunes s'intéressent à ce qu'on raconte. Sans ça, c'est trop distant.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la période de votre enfance. J'ai lu quelque part que vous disiez que vos parents avaient raté votre départ, entre guillemets. Vous avez donc, vous le disiez, été éduqué par votre grand-père et votre grand-mère dans des ambassades, notamment à Londres. Vous avez eu finalement une enfance de petit lord, où vous avez croisé, je crois, le prince Charles.
Vous êtes bien renseigné.
Oui.
Oui, bien sûr, parce que en fait, Buckingham Palace organisait des goûters enfin des réunions avec les différents diplomates et des goûters pour les enfants ou les petits-enfants de diplomates. Donc effectivement, j'ai joué avec le prince Charles. Et c'est marrant parce que un jour mon père est arrivé à Londres et il m'a vu avec mes petites bouclettes et bien habillé et l'Austin Princess pour aller à l'école, enfin. Et il a dit, ça va pas être possible, en fait. Vous êtes en train d'en faire un zozo. Donc, il m'a foutu dans une pension paramilitaire qui s'appelait le Moncel. Mm-hmm. Un joli port de pêche, à Julien Josas. Et là, ça a changé ma vie, ouais, on peut dire ça.
Comment ça se passait? C'était quoi, cette pension militaire?
C'est-à-dire qu'au départ, j'étais un peu pris de court, parce que, au lieu de me réveiller avec un thé Earl Grey et des belles paroles, c'était une sirène qu'ils n'avaient pas enlevée, d'alerte allemande, parce que le château avait été occupé par les Allemands, ils avaient mis un énorme bunker qui est toujours là, hein, qui est dans le parc, et donc ça faisait un son un peu là, voilà, à 5h du matin. Parcours du combattant, lever du drapeau, marche au pas, boxe, karaté, hockey sur gazon et éventuellement quelques cours. Ouais. Voilà, et on apprenait à se battre, on apprenait à courir jusqu'au bout et surtout les Allemands avaient laissé un parcours du combattant avec des barbelés et on le faisait tous les matins.
Finalement, ça vous a été très utile pour la suite sans doute.
Oui, je ne le savais pas à l'époque, ouais. Mais oui, effectivement, enfin, très utile. Oui, ça m'a formé à... Enfin, à cet âge-là, endurance. On est bon quand même, en général, oui. Hein, on n'est pas trop mauvais, à part quelques gars. Mais je veux dire, c'était une école où il y avait marqué « Nous ferons de vos enfants des hommes ».
Quel souvenir vous gardez de cette période scolaire, de ces études-là? Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Ce que j'ai retenu, c'était au départ, j'ai pas aimé du tout, hein, parce que le choc était un peu fort. Et puis j'étais ce qu'on appelait paillasson, donc je me suis fait bizuter pendant un an. À la deuxième année, ça va mieux parce qu'on est demi-paillasson. Et la troisième année, on est ancien. Donc là, on se venge sur les nouveaux.
La terrible logique du 18e.
Voilà, tout simplement. Et après, on m'a foutu chez les jésuites. Ça, c'est compliqué aussi. Mm-hmm. Parce que là, il y a moins de sport et plus de maths. Et j'étais vraiment nul en maths. Et puis, ils ont essayé de me faire la messe, quoi. C'était un peu compliqué, quoi.
Vous aviez un drôle de surnom, je crois, chez les jésuites.
Belzébuth. Donc, je suis pas resté longtemps. Mais c'est... curieux, j'ai gardé un bon souvenir des jésuites. Il y avait quelque chose de très fort. Je peux pas l'exprimer vraiment en acte ou en chose. C'était juste une impression de force qui est restée. Je vais pas dire de droit parce que c'est pas très jésuite. Vous connaissez l'histoire du jésuite qui est perdu à Paris et qui demande à un flic la direction de l'Arc de Triomphe. Et le flic qui a un petit peu de culture lui dit « Vous trouverez jamais cet endroit.
» Donc les sinuosités de la pensée jésuite.
Voilà, ouais. Et donc, non mais ça a été une belle expérience. J'ai le souvenir du jésuite qui m'engueulait tout le temps et j'ai encore le souvenir de ses recommandations.
Quelles étaient ses recommandations par exemple?
Y croyant en moi, tout simplement. C'est-à-dire, je n'ai pas d'inquiétude pour toi, mais tu risques de perdre du temps. En gros, on va dire. Mais il y avait cette puissance dans la parole calme et physiquement, il était très costaud. Il me parlait bien, quoi. Il a sans détour, quoi. Avec un petit peu de violence physique, quelques baffes, quand même. Mais je peux pas dire que j'ai un mauvais souvenir. Il y a quelque chose de très droit, de gens convaincus, en fait. Et c'est ça qui m'a marqué, ne pas lâcher l'affaire. Et c'est ce qu'il me disait. Mon grand-père disait ça aussi. Va, avance. Et je lui disais, mais si je me trompe, si tu te trompes, avance d'une main sûre. Mais avance. Lui aussi, pour devenir avoir le titre d'ambassadeur et être 9 ans à Londres à la demande de Buckingham, il a vécu des moments historiques, hein, Première Guerre mondiale, les accords de Genève, Deuxième Guerre mondiale avec son fils qui était impliqué, il s'est retrouvé à Vichy à un moment donné, c'était compliqué quand même pour des gens qui avaient fait 14 de renier l'autorité du grand chef, mais il l'a fait. Oui. Il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a rempli des papiers pour les Juifs. Et en fait, la résistance lui a demandé de rester à Vichy. Et je me rappelle que quand on a parlé de ça, il m'avait dit, il avait qu'une peur, c'est que les gens qui lui avaient demandé de rester à Vichy pour avoir quelqu'un meure, et qu'il n'aurait aucune preuve que c'était une mission, en fait.
Ce grand-père, ça a l'air d'être une figure... tutélaire très impressionnante et en même temps une espèce de personnage très sage qui vous a donné les bons conseils au bon moment.
Il parlait peu, Il m'impressionnait beaucoup, on se voyait. Mais c'était un, oui, c'est important, je pense, pour un jeune d'avoir des figures comme ça. Hein, donc, il y avait d'un côté Schoendorfer, mais il y avait surtout ce grand-père, d'abord parce que j'ai vécu tout petit, je le voyais peu, hein, je dînais pas avec eux, je déjeunais pas avec eux, hein, il y avait une nanny à Londres. Ouais. Et après, les nannies, c'était des gros bras au Moncel, hein, donc, en fait, on pouvait manger le dimanche à table, mais il fallait demander la permission pour parler. Et quand je disais « Can I leave the table ?», il disait « Yes, you can, but you may not. » C'était très british, un peu comme...
L'autorité.
Donc il fallait être très poli, il fallait demander, il fallait... Et par contre, on ne montrait pas l'émotion. Même le rire trop fort, on avait un regard un peu... Je ne sois pas vulgaire. Oui, c'était assez coincé, quoi. Mais avec des gens qui avaient de l'autorité naturellement, de par ce qu'ils avaient vécu. Donc même si j'y connaissais rien, je sentais le souffle de l'histoire et du romantisme dans chaque personnage. Malgré les costumes gris de mon grand-père, je savais ce qu'il avait fait. Et ça, ça pesait dans chaque mot, dans chaque vibration de sa voix. Et c'est ça qui est important. C'est pas forcément d'être là. Mon père était peu là, mais c'était un exemple. Et je collectionnais ses papiers dans le Figaro. Et à l'époque, c'était des papiers qui duraient une semaine. Il y avait la photo de lui avec sa pipe en petit. Et vous aviez une page entière sur le Yémen, par exemple les royalistes qui se battaient contre les troupes de Nasser, qui étaient les communistes dans la montagne. Et je me rappelle à la fin de l'article, quelquefois, il y avait marqué « J'entends quelqu'un respirer, c'est de l'autre côté du rocher, je ne sais pas ce qui va se passer, à demain ». Et on se jetait sur le journal le lendemain.
Comme les romans feuilletons du 19e.
Ouais, c'était ça, c'était Albert Londres. Et donc, je me rappelle, parce que les enfants sont moqueurs, et quand il y avait la fête du sport, la fête du week-end prolongé, et il y avait des demi-week-ends où les parents venaient, mais on n'avait pas le droit de sortir de la pension, bah, moi, souvent, il n'y avait personne, et ils disaient, ils se foutaient de ma gueule, les mômes. Et je leur sortais la photo en disant, mais moi, mon père, tu sais, il est en ce moment avec les Yéménites dans la montagne, un crétin, tu vois, genre, lui au moins il fait des choses.
Ouais.
Alors pour ma mère, j'avais découpé une photo d'une danseuse espagnole.
Pas mal aussi.
En disant qu'elle était en tournée. C'était un peu un mensonge, mais...
Vous la voyez
elle
pas
elle n'a jamais fait de danse espagnole, et d'abord, ça l'a un peu vexée parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, pour une Corse. Mais ce sont des Génois de son côté. Et donc elle m'a dit, tu ressembles pas à ça. Je dis, bah... Je ne savais pas à quoi tu ressemblais en même temps.
Vous racontiez des histoires, mais il y avait aussi une grande forme de solitude, qui est une solitude qui...
Je ne sais pas vraiment, c'est pas... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Solitude, c'est un côté un peu triste.
Triste, oui.
Je n'ai pas de souvenirs de tristesse. J'ai des souvenirs de colère, j'ai des souvenirs de solitude, mais de solitude acceptée, quoi. Comme quelque chose de normal, comme un passage. J'attendais, j'avais une espèce d'impatience, je me disais c'est un passage. Après, moi je vais être l'homme que j'ai envie d'être, enfin je ne savais pas quoi, je voulais être dessinateur.
Vous pratiquez beaucoup le dessin.
J'étais premier en dessin.
Bon en cours, mais par contre les dessins ça marchait bien.
Voilà, et j'ai fait des BD d'ailleurs.
Donc l'image déjà.
Ouais, l'image. Ouais. Mon premier BD ça s'appelait Infarctus, c'est l'histoire d'un cœur qui a été jeté dans une poubelle dans un hôpital, parce qu'il a un infarctus, et il rencontre un doigt de pied qui a été coupé lui aussi, parce que c'est diabétique, et ils partent ensemble.
C'est assez punk comme...
C'est n'importe quoi. voilà, c'était le premier truc que j'ai raconté, je devais avoir 14 ans. Quoi.
Ouais.
N'importe quoi.
Qu'est-ce qui fait que l'adolescent que vous étiez, habituellement quand on pense à l'adolescence, on pense à la remise en cause du modèle familial, et on se dit qu'on va faire tout l'inverse des parents, globalement, pour les emmerder. Pourquoi vous vous êtes dit je vais faire ce qu'ont fait mes modèles, mes mentors, mon père, Pierre Schoendorfer, Joseph Kessel, votre grand-père. Pourquoi vous vous êtes dit je vais me mettre dans leurs pas et je vais tenter l'aventure. À quel moment même vous vous êtes dit ok c'est ça que je veux faire.
Je crois que je me le suis jamais dit. Hein. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Alors si après on veut réfléchir à tout ça, ce que j'ai jamais fait, mais je me demande d'abord parce que c'était pas des parents, tout simplement. C'était des modèles, comme vous dites. Donc, il n'y avait pas cette pression des parents qui vous emmerdent avec l'autorité. Fais ci, fais pas ça. Je ne l'ai pas eu. Donc ça, c'est plutôt... Et puis l'autre chose, je pense que c'est pour les tuer. C'est pour faire mieux qu'eux.
Comment s'est passé le moment, justement, où...
Et puis pour voir si c'est vrai.
Si c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai?
Tout.
Ce qu'il raconte?
Oui. Kessel me l'a dit une fois, hein. Il m'a dit, donc maintenant tu sais. La première blessure que j'ai eue au Cambodge, en 74, l'événement est... lui-même de la blessure du Cambodge était trop fort, mais à l'aéroport, il y avait mon père, Kessel et Schoenhofer, en ligne, qui m'attendaient.
Les trois grâces.
Et mon père m'a demandé de m'asseoir.
J'étais sur un brancard.
J'ai dit, ok. Et il m'a foutu une baffe. En disant, t'es malin, tu nous as fait peur. C'est assez content.
Avant d'arriver...
Ils avaient enfin eu peur.
Ah, et vous étiez un petit peu leur égal, finalement, et d'un coup... Pas encore leur égal, mais...
Un jour, je faisais une pige pour François, parce qu'évidemment, au milieu de tout ça, il fallait gagner un peu de fric, quand même. Donc, j'étais disc jockey, j'étais barman au Rock'n'Roll Circus, à Paris, et puis j'étais aussi chauffeur... C'est l'ancêtre d'Uber, quoi. Il y avait un type qui avait une liste de chauffeurs qui parlait anglais. Et Kissinger était venu à Paris. Les accords, les fameux accords sur le Vietnam. Et à 13h, les accords s'arrêtaient pour reprendre 3 heures après et ils disparaissaient. Et comme j'avais une moto, François m'a dit, essaye de voir quelle est la blonde avec qui il a rendu, parce qu'il est célibataire, extrêmement connu et riche. Brillant. Et donc, et à chaque fois, on le perdait. On faisait des courettes, mais les motards s'interposaient, on n'arrivait pas à l'attraper. Et un jour, je le perds au Trocadéro. Donc, je vais rue de la Tour chez mon grand-père. Flic en bas, pièce d'identité, flic en haut. Mon grand-père, pareil, me fait, ah. Bon, bah, tu poses tes appareils photo, tu viens dans le salon et tu écoutes. Et la blonde, c'était Kissinger. Et en fait,
c'était
mon grand-père, pardon, qui était chauve comme un œuf. Et en fait, Kissinger était intelligent. C'est-à-dire qu'il est allé voir le type qui avait fait exactement la même chose que lui en 54. Et c'était, les Vietnamiens, c'était les mêmes.
Les mêmes.
Et donc voilà, tous les après-midi, il allait voir son conseiller. Il allait écouter, comprendre comment fonctionnaient les Vietnamiens, etc. Donc après, je ricanais quand je voyais tous les journalistes partir à la poursuite pour retrouver la blonde au gros sein. Qui en fait, c'est vrai que mon grand-père avait peut-être des seins, mais il n'était pas blond.
Avant de brûler toutes ces étapes-là, on va revenir à votre premier départ. Le moment où vous êtes parti en Israël et vous partez avec un appareil photo. Pourquoi l'appareil photo et pas un carnet pour écrire?
Alors, pas un carnet pour écrire, parce que mon prof de français me mettait... En général, il me mettait 19 sur 20 en rédaction pour les idées, et il me foutait zéro, parce qu'à partir de 1000 fautes d'orthographe, c'était zéro. Le problème que j'avais, c'est que j'avais fait toute mon enfance en anglais. Et d'un seul coup, d'arriver à 10 ans dans une pension française, je mélangeais tout, en fait. Puis en plus, j'étais pas passionné par tout ça. Mais... Donc, fort des conseils de mon professeur de français, je me suis dit, je vais pas me mettre à faire des papiers, ça va être ridicule. Ça me paraissait simple de prendre un appareil photo, ce qui était pas si simple que ça, en fait. Et c'est mon père qui m'a fait remarquer que, une discussion à un déjeuner, que Israël mobilisait, qu'il y avait une grosse menace de plusieurs pays arabes autour, et que il avait découpé dans un journal un petit article où les Israéliens demandaient des volontaires pour remplacer leurs jeunes qui étaient mobilisés dans les kibbutz. Donc je me suis porté volontaire. Je me suis retrouvé dans un train Paris-Brindisi et ensuite Brindisi-Haïfa en bateau à chanter des chansons israéliennes en hébreu. C'était très joyeux. Il y avait des jolies filles. Et on est arrivé, des camions militaires nous ont récupérés, on nous a mis des fleurs autour du cou et je me suis retrouvé en Galilée au kibbutz Yagour. Et là, on m'a montré la piscine, les tennis, les jolies filles, les réfectoires. Je me suis dit, ouais, c'est génial. Il y a plein de jeunes filles, il y a plein de jeunes gens. On va se marrer, quoi.
Vous aviez 17 ans.
Ouais. On s'est pas marré du tout, parce qu'en fait, on est parti au champ à 4h du matin. Et à 3h de l'après-midi, on rentrait, mais épuisé. C'est-à-dire, ni tennis, ni piscine, et rien du tout. On se couchait, et à peine on s'endormait, on nous réveillait, on repartait cueillir des oranges. c'était l'enfer, quoi. Mais enfin l'enfer joyeux, hein, on chantait, etc. Puis la guerre a éclaté, donc ça devait être au bout de 8-10 jours. Et il y avait un jeune Français, genre, malheureusement j'ai oublié son nom, qui avait les cheveux longs, qui ressemblait à une espèce d'athlète, qui voulait se battre, et un juif qui était venu de France pour se battre. Et donc on est parti en stop. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de services de presse, de trucs sophistiqués. Donc on s'est vite retrouvé au milieu des combats, quoi. Jérusalem, le désert, la bataille de la ferme, enfin. Et j'ai raté toutes les photos. Mais toutes, c'est lamentable, quoi. J'avais un anti-sèche, mais ça n'a pas marché, j'ai pas très bien.
Anti-sèche, c'était...
J'avais un bout de carton avec marqué nuages, soleil, coucher de soleil, enfin. Alors j'ai la preuve que j'y étais. C'est un soldat israélien qui a pris mon appareil photo et qui m'a pris en photo où je pose avec une soldate israélienne avec sa Uzi devant le mur de lamentation. Donc on est tous les deux, moi j'ai une espèce de short lamentable et une Lacoste, et j'ai un sourire idiot.
Une jolie casquette.
Une casquette, oui, de l'armée allemande en plus, que j'avais piqué à mon père qui avait gardé ça en souvenir. Avant de partir, je m'étais pas rendu compte de la, c'était pas forcément le bon endroit pour mettre une casquette allemande devant le mur des lamentations, mais quand on est jeune, on commet des erreurs, mais c'est aussi l'histoire. L'histoire est là. J'ai vu mon premier mort, j'ai vu l'énergie, le romantisme et la passion des soldats israéliens, de cette jeunesse, quoi. J'ai aussi vu la détresse dans les regards des Palestiniens, surtout la légion bédouine, qui venaient de perdre Jérusalem et ils se sont battus comme des lions. Ça a été une bagarre très dure, hein, la prise de Jérusalem. Parce que les Israéliens ne voulaient pas abîmer la ville, ils ne pouvaient pas se servir de l'artillerie lourde. Donc ça a été du combat au corps à corps, quoi, ou de sniper, donc du combat très proche quand même. Et ça m'a impressionné, c'est-à-dire la volonté des deux côtés, la jeunesse, l'esprit de sacrifice, et l'histoire, encore une fois. Parce qu'évidemment, chaque soldat est un livre là-bas, surtout à cette époque-là. Donc les nuits entières, on parlait de la Bible, de toute l'histoire de la région, quoi. Et donc je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre métier possible, quoi. Quel que soit le moyen, je m'en foutais de la photo. Il faut que je trouve une excuse pour être là. Alors c'est ou le stylo ou la photo. Les caméras à l'époque, c'était pas possible. C'était extrêmement cher, extrêmement lourd, et puis il fallait vraiment, là pour le coup, apprendre. Donc je suis rentré, j'ai fait un stage au laboratoire de François, grâce à ma tante Patricia Schoenhofer, enfin Patricia Chauvel. Et donc j'ai fait un stage à François, je me suis retrouvé chez Carmen Tessier au Potin de la Commère. Et là j'ai fait Nicoletta chez le dentiste, Johnny avec sa première voiture, Gainsbourg en boîte avec sa femme, enfin c'était... Je m'emmerdais. Mais en fait, aujourd'hui, dans mes archives, c'est les photos qui valent le plus.
Merci beaucoup, Patrick Chauvel. On parlera demain de ce stage à François et de la suite de vos aventures. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Patrick Chauvel. À voix nue. Réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.